Bonjour à tous, Vendorage reçoit aujourd'hui Jean Stone pour la sortie de son nouvel ouvrage Explorateur de l'infini. Bonjour. En quelques mots, Monsieur Stone, est-ce que vous auriez la gentillesse de vous présenter un petit peu à nos lecteurs et auditeurs, de nous dire quel a été un petit peu votre parcours, qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à ces questions, cet inventaire finalement sur les toutes dernières, on va dire, trouvailles en matière de science, et puis les passerelles qui peuvent s'établir avec la spiritualité. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du milieu dans lequel vous avez été élevé, et puis peut-être si vous avez eu des enseignements particuliers qui vous ont mis sur cette voie?
Oui, bonjour. Donc effectivement, j'ai un parcours assez particulier dans le sens que je suis né d'un père qui est prêtre orthodoxe, tout au moins qu'il avait été avant ma naissance, mais j'ai vu encore, c'est vrai, la messe quand j'étais petit, et qui était parti avec ma mère au fin fond de la forêt des Landes pour créer un espèce de centre, je sais pas, de réflexion de quelque chose. En tout cas, je suis resté là-bas jusqu'à l'âge de 10 ans avant de monter à Paris. Et mon père lui-même, ayant eu pas mal de problèmes personnels et psychologiques, ne m'a pas enseigné comme il avait prévu de le faire sur la religion, les grandes idées, etc. Mais j'ai vécu entouré de milliers de livres dans un environnement donc très intellectuel. Plus tard, mon père a trouvé un travail à Paris comme libraire dans une petite librairie ésotérique qui s'appelait la Table d'Émeraude, qui travaillait sur toutes les religions et toutes les grandes traditions de l'humanité. Donc j'ai évidemment très jeune été entouré de textes spirituels et religieux, souvent des textes rares et inconnus du grand public. Ensuite, j'ai multiplié les diplômes, non pas pour avoir beaucoup de diplômes, mais c'est parce que j'étais quelqu'un qui voulait être transversal, qui voulait être curieux, qui voulait avoir beaucoup de cordes à mon arc, mais surtout même pas, au début c'était même pas une question de cordes, mais de découvrir des domaines différents. Donc j'ai fait un DEUG d'économie mais appliqué, de mathématiques appliquées à l'économie, j'ai fait une maîtrise d'informatique appliquée à la gestion d'entreprise, je suis rentré ensuite à Sciences Po, j'ai fait Sciences Po Paris et Ecofi en deuxième, troisième année, et en même temps j'ai fait un DESS de gestion et capacité administrative d'entreprise, et j'ai fait les deux diplômes en même temps. Mais après ça, quelques temps plus tard, j'ai fait un DEA de paléontologie humaine sur l'origine de l'homme avec le professeur Henri Delunay au Muséum National d'Histoire Naturelle, et un DEA de philosophie des sciences sous la direction de Bernard d'Espagna à l'Institut de philosophie des sciences de la Sorbonne. Voilà pour mon parcours qui est, comme vous voyez, assez spécial.
D'accord. Donc c'est un parcours qui vous a amené à être aujourd'hui aussi secrétaire général de l'Université interdisciplinaire de Paris, en écho un petit peu à ce parcours scolaire très large, très interdisciplinaire pour le coup.
Oui, tout à fait. Si on a créé une université interdisciplinaire, avec mon ami le professeur Jean-François Lambert, il y a déjà maintenant près de 22 ou 23 ans, c'est parce que, comme disait Bernard d'Espagna, il y a partout d'admirables morceaux dans notre civilisation, mais il n'y a nulle part de statues. C'est un peu comme des morceaux, vous savez, des statues grecques, où on a des bras, des jambes, des troncs, mais on a jamais une statue complète, quoi. Et ben, c'est un peu le même problème au niveau des sciences, des connaissances, de notre monde. Et c'est pourquoi je me définis comme un homme de synthèse, et que tous mes grands livres, que ce soit sur la science, l'économie et demain la religion, sont des livres de synthèse. Et notre université se veut donc interdisciplinaire.
Formidable. Alors, moi, une question qui m'intéressait aussi de vous poser, c'était le côté plutôt pragmatique de vos activités, c'est-à-dire que vous avez exercé différentes fonctions et certaines ne sont pas, n'ont pas trait à des recherches théoriques, mais des choses très pratiques d'économie d'entreprise. Vous intervenez aussi sur ces sujets-là.
Oui, en fait, j'ai deux casquettes, mais il y a une cohérence entre les deux. D'un côté, j'ai une casquette de philosophe des sciences. Ça correspond à mon best-seller, Notre existence a-t-elle un sens, où je parle d'implications philosophiques, justement, de l'univers, de la vie, de la matière, de la conscience, de toutes ces sciences-là. D'un autre côté, j'ai une casquette de prospectiviste. J'aide les entreprises et les dirigeants à essayer de mieux comprendre le monde de demain. Le point commun entre ces deux casquettes, c'est la science. Par exemple, la physique quantique, la théorie du chaos, c'est des choses qui ont des applications philosophiques, mais c'est aussi des choses qui aident à mieux comprendre le monde d'aujourd'hui et de demain. Et pendant longtemps, j'ai enseigné à des séminaires, y compris à HEC, qui s'appelait philosophie des sciences appliquées au management. Et j'enseignais la physique quantique, je fais toujours de la théorie du chaos à des chefs d'entreprise. autour justement de ces idées-là. Qu'est-ce que la compréhension de ces nouvelles théories peuvent nous donner pour comprendre le monde de demain et le management de demain. Donc c'est la spécificité de mon approche qui est à la fois donc théorique et pratique.
Très bien. Alors une question aussi que je voulais aborder avec vous, est-ce qu'il y a eu une lecture en particulier ou peut-être une rencontre justement qui vous est particulièrement attiré vers ce domaine de la recherche fondamentale?
Alors, dans les années 80, j'ai commencé à travailler sur les rapports que j'appelle moi implications philosophiques et métaphysiques de la science, et que pour résumer, on pourrait appeler science et religion, science et spiritualité. Je me rappelle avoir entendu jeune et après avoir lu les actes du fameux colloque de Cordoue, qui en 1979 sur France Culture était une grande première d'interrogation justement sur les implications de la physique quantique, des sciences modernes, etc. Ensuite, j'ai lu des bouquins comme ceux de Rémi Chauvin, Biologie d'esprit. Il y avait toute une collection à l'époque qui s'appelait la collection Science et Conscience de mémoire, je crois. En tout cas, c'était une collection aux éditions du Rocher. Je pense bien qu'elle s'appelait Science et Conscience, comme le colloque de Cordoue en tout cas. En tout cas, cette collection-là, il y avait Rémi Chauvin, il y avait des biologistes un peu avancés comme Rupert Sheldrake, etc. Et puis après, j'ai lu l'ouvrage de Patrice Van Hersel, La Source Noire, ce voyage aux confins de la mort, sur l'expérience d'approche de la mort, mais qui parlait aussi d'interviews de grands physiciens quantiques comme David Bohm, etc. Et puis, je me suis mis en tête de rencontrer ces gens-là, donc j'ai écrit, j'ai arrêté de bosser, c'était risqué pour la dernière année de Sciences Po, j'ai eu le diplôme quand même, pour écrire un papier qui s'appelle Notre enquête sur la nature même de notre monde, et qui est le prototype de notre existence à un sens, très exactement 20 ans avant que sorte notre existence à un sens. Et avec ça, j'ai pris mon bâton de pèlerin, j'ai pu rencontrer des gens qui étaient certains de mes héros, comme Rémi Chauvin, et puis j'ai rencontré Bernard d'Espagna, qui a été sans doute l'homme qui m'a le plus influencé. C'est à lui qu'est dédié mon dernier livre, et c'est lui que je considère comme le scientifique le plus inspirant que j'ai rencontré. J'ai rencontré aussi, peu de temps ou pas après, ça c'est vers 88-89, et vers 90-91, j'ai rencontré Marcel Paul Schutzenberger, et avec lui Michael Denton, un biologiste australien. Et Schutzenberger était un esprit aussi inclassable, tout à fait transdisciplinaire, médecin, biologiste, devenu mathématicien, fondateur de l'informatique théorique, linguiste, etc. Et donc voilà des gens qui m'ont effectivement influencé et quelques lectures qui m'ont influencé.
Alors toutes ces rencontres et toutes ces lectures vous amènent aujourd'hui à publier un nouvel ouvrage intitulé « Explorateur de l'invisible, une plongée ».
C'est une plongée au cœur des grands mystères de notre temps, parce qu'en fait, ce que je veux dire dans ce livre, c'est que aujourd'hui, l'exploration, ce n'est plus l'exploration des déserts ou des montagnes qui ont été cartographiées depuis longtemps par GPS et vues par satellite. C'est l'exploration de l'infiniment petit, de l'infiniment grand, de ce qu'il y a au-delà de l'univers, de ce qu'il y a en dessous des atomes, mais aussi l'exploration de nous-mêmes. Nous ne savons toujours pas répondre à la question qui était sur le temple de Delphes, connais-toi toi-même. Et en fait, l'expérience d'approche de la mort, justement, les questions sur la conscience et la nature du cerveau humain sont des questions essentielles, et j'essaie de les aborder dans cet ouvrage Explorateur de l'invisible, où à la fois je traite donc des grands thèmes de la matière, de l'univers, de la vie, de la conscience et des mathématiques, comme dans mon ouvrage précédent, Notre existence a un sens, mais j'essaie d'aller plus loin, de le faire de façon plus grand public, et surtout de le faire en décrivant ce que m'a apporté et quelles étaient les idées de ces différents grands scientifiques que j'ai eu la chance de rencontrer, car j'ai rencontré, et j'en parle d'un tout petit nombre d'entre eux seulement, mais des centaines de scientifiques, dont 20 prix Nobel au cours des 25 dernières années, et c'est une de mes grandes chances dans ma vie.
Alors, c'est un livre que j'ai trouvé pour ma part très didactique, qui a une particularité dans sa présentation, c'est que chaque grande partie est finalement scindée, on va dire, en deux. Une qui fait le point sur les recherches dans les différentes disciplines que vous abordez, et puis un autre chapitre qui aborde plutôt la portée philosophique que ces recherches, ces découvertes peuvent apporter. Sans rentrer dans le détail et sans divulguer les 360 pages du livre, est-ce que vous pouvez nous parler un peu justement de cette dimension philosophique ?
Oui, bien sûr. En fait, qu'est-ce que démontre mon livre? Eh bien, mon livre démontre déjà une chose très importante, c'est que la réalité n'est pas ce que l'on croit. Ce que vous croyez être une illusion est réel, et ce qui est réel est une illusion pour vous. En fait, c'est pas de la théorie du complot, regardez, vous êtes en train de m'écouter, sans doute assis dans un fauteuil, si vous n'êtes pas dans votre voiture, vous êtes en train de me lire ou de m'écouter, et actuellement, vous êtes immobile. Pourtant, vous allez à 102 000 km à l'heure, c'est la vitesse à laquelle la Terre tourne autour du Soleil. Donc voyez bien que le fait d'être immobile dans votre fauteuil est une illusion. La réalité, c'est que vous allez vous déplacer, vous allez faire 30 km le temps même d'avoir, pendant lequel vous avez entendu une de mes phrases, vous avez déjà fait 30 km. Donc voyez bien que ça vous montre déjà ce simple exemple. Comment la réalité n'est pas ce que vous croyez. Ce que la physique quantique nous démontre, c'est encore bien plus loin. C'est que la réalité, le fondement des choses, est un monde où les concepts sont totalement opposés ou contradictoires par rapport à nos concepts à nous. C'est un monde où on peut être à la fois ici et là, où on peut être à la fois plein et vide, où on peut être à la fois blanc et noir, où une chose est son contraire. Et donc ça, c'est les fondements du réel ne sont pas des objets. Nous assistons à une dématérialisation de la matière et aussi à l'idée, et c'est un autre message très important, que notre monde ne s'explique pas par lui-même. Ça ne veut pas dire qu'il y a des esprits ou des dieux à l'extérieur. Non, non, de façon tout à fait pragmatique et scientifique, vous pouvez prouver que notre monde physique, le monde où nous sommes, ne s'explique pas entièrement par lui-même, qu'il y a nécessité de faire appel à d'autres dimensions pour expliquer ce qu'on appelle entre autres des interactions non locales, le fait que deux particules soient capables d'interagir à des milliers de kilomètres de distance, si elles ont été en contact avant, elles sont comme un tout inséparable. Bref, vous avez d'autres dimensions à prendre en compte dans notre monde. Ensuite, eh bien, vous avez la même question sur l'univers. D'où vient-il ? Là aussi, d'autres dimensions. Vous avez donc les questions de la conscience qui vous montrent que beaucoup d'expériences semblent indiquer que le cerveau humain reçoit quelque chose qui est une conscience universelle, ne le fabrique pas, exactement comme votre poste de télé reçoit. Hein, votre poste de télé reçoit effectivement un signal et ne le fabrique pas. Et puis je parle aussi en ce livre des rapports entre les mathématiques et la mystique, ça peut surprendre beaucoup de gens, mais les grands mathématiciens sont peut-être parmi les gens les plus mystiques, et là aussi je montre beaucoup de liens avec l'idée justement que les objets mathématiques sont des continents que découvre l'esprit humain et non pas des créations de ce même esprit humain. Donc voilà un petit peu quels sont les différents points que je traite dans ce livre. Je parle aussi de l'évolution de la vie dans un sens assez proche de Teilhard de Chardin, montrant que les intuitions de ce grand homme sont aujourd'hui vérifiées par des nouvelles découvertes scientifiques. Et tout ceci pour aboutir à quoi ? Eh bien, à l'idée que nous pouvons être maintenant des êtres unifiés, que nous ne sommes pas obligés de choisir entre cerveau droit et cerveau gauche, nous ne sommes pas obligés de choisir entre la transcendance et la raison, mais que nous pouvons avoir les deux en même temps, que nous pouvons surmonter le fossé que l'écrivain anglais C.P. Snow avait appelé le fossé entre les deux cultures, la culture traditionnelle et humaniste qui nous dit que le monde a un sens, et la culture rationnelle et technologique qui nous donne un progrès et une qualité, une durée de vie incomparable, mais qui nous dit que le monde n'a pas de sens. Nous pouvons donc rendre ces deux cultures compatibles, nous pouvons relier nos deux cerveaux pour avoir une vision cohérente du monde.
Alors nous nous étions rencontrés une toute première fois à l'occasion de l'une de vos très nombreuses conférences, une deuxième fois dans un contexte un peu particulier qui était en fait une représentation d'une pièce de théâtre inspiré un peu de la pensée de Teilhard de Chardin que vous évoquiez il y a quelques secondes, en l'occurrence une pièce intitulée L'esprit-matière. Est-ce que justement toutes ces recherches, cet inventaire que vous avez mené de manière très rigoureuse depuis près de 30 ans, c'est bien ça, en matière scientifique, est-ce que ça ne vous invite pas aujourd'hui à envisager la rédaction d'un ouvrage justement de dialogue avec de grands représentants des principales confessions, un peu comme avait pu le faire Mathieu Ricard et Trinh Duan Tian il y a quelques années?
Bien, d'abord oui, comme je vous l'ai déjà dit, Teilhard de Chardin est donc, je pense, important pour l'époque actuelle. Je me définis, pour faire simple, parfois comme néo-teilhardien, mais en fait c'est une simplification parce que je ne reprends pas toutes les idées de Teilhard, mais en tout cas l'idée de de cette complexité qui va vers toujours plus de conscience, cette croissance de la complexité vers toujours plus de conscience est une évidence pour moi, et je pense aujourd'hui est soutenue par des données scientifiques, et c'est ça qui est intéressant. Le dialogue avec les représentants de grandes religions, bien sûr, je travaille déjà beaucoup effectivement en lien avec le christianisme, avec l'islam. J'interviens aussi par exemple au centre védantique Ramakrishna de Gretz-Armainvilliers depuis plusieurs années. Donc évidemment j'ai déjà beaucoup d'activités de dialogue avec les religions, mais pour moi l'idée c'est pas ça. L'idée c'est de faire un livre après avoir fait notre expérience d'un sens et aujourd'hui explorateur de l'invisible sur les questions scientifiques et sur les implications philosophiques et métaphysiques des questions scientifiques. Je veux faire ensuite, donc, et après avoir fait bien sûr les clés du futur sur, comme vous le disiez, on le disait tout à l'heure, l'économie, le management, la nouvelle technologie, la société, les entreprises, etc. Je veux faire un grand livre sur les religions. Je veux faire un grand livre qui, dont le titre encore provisoire, mais pourrait s'appeler « Lettre ouverte à ceux qui cherchent » et qui serait un livre pour faire le point sur toutes les grandes questions. Dieu existe-t-il ? Y a-t-il une vie après la mort ? Les religions sont-elles purement des inventions humaines ? Sont-elles plus que cela ? Hein ? Eh bien, je crois vraiment... Oups, il me semble que c'est le vôtre ici. C'est pas grave. Il me semble plus que vraiment que là, il y a une très très grande chose à faire encore aujourd'hui, malgré le nombre de gens qui ont écrit sur ces questions-là, malgré toutes les grandes traditions de l'humanité, qui ont déjà eu de très nombreux éminents commentateurs et représentants. Je pense qu'il faut chercher dans deux ou trois directions différentes. Premièrement, montrer la base commune de toutes les grandes traditions de l'humanité. Ça, c'est très très important. Ensuite, voir est-ce qu'on peut lire une espèce de cohérence dans si quelque chose cherche à se révéler à l'homme, ce que nous appelons Dieu, est-ce qu'il y a une cohérence dans la succession de ces révélations ? Est-ce qu'on peut lire en quelque sorte un projet de Dieu pour l'homme dans l'histoire, voyez-vous ? Et donc, ensuite, évidemment, je voudrais aussi, de par mon expérience familiale, pouvoir faire porter à la connaissance du grand public toute une série de textes, je dirais, très peu connus, qui ont été écrits depuis plusieurs siècles par des gens qui sont, à mon avis, beaucoup plus sérieux que beaucoup de gens que l'on qualifie d'ésotéristes. Je pense, par exemple, à Madame Blavatsky, La Doctrine Secrète, etc. Je pense à Gurdjieff, je pense à beaucoup de ces gens-là. Eh bien, moi, si j'ose dire, j'ai beaucoup mieux en magasin. J'ai des choses extraordinaires à faire connaître aux gens. Par exemple, vous pouvez aller sur livremystique.com, qui est un site créé par un ancien collaborateur de mon père. Vous trouverez des vingtaines, des milliers, des dizaines de milliers de pages de livres mystiques. Et parmi eux, des petits bijoux que je commenterai donc dans ce futur livre. Et ce sera ça mon grand travail sur les religions.
Donc c'est un travail qui est déjà entamé, si je comprends bien.
C'est un travail qui est entamé depuis 20 ans. J'estime qu'il me faut encore 10 ans. Je fais des séminaires privés. Je vais faire bientôt un colloque « Quelle spiritualité pour demain ?» où je présenterai... J'ai déjà présenté une partie de mes idées dans un séminaire pour les adhérents de l'UIP il y a un an. Moins d'un an, et je ferai un séminaire, donc, une discussion avec 6 autres penseurs sur quelle spiritualité pour demain. Et donc, effectivement, il me faut encore 10 ans de travail et des ateliers privés aussi où seront discutées ces fameuses questions pour arriver à ce travail très ambitieux, je le reconnais, mais j'ai déjà fait 2 travaux très ambitieux qui ont été réussis avec mes 2 premiers livres de synthèse. Donc, ce travail de synthèse, en somme, toutes les grandes. Tout ce que récupérer dans toutes ces grandes traditions humaines, des éléments pour essayer de comprendre le sens de la vie et le projet de Dieu pour l'homme. Voilà l'idée générale.
Très bien. Alors j'aurais une dernière question à vous poser. D'aucuns estiment que l'art rapproche de Dieu. C'est une très jolie formule. Vous n'y êtes de toute évidence pas indifférent. Je voudrais savoir si justement l'art transcende un peu toutes ces questions d'ordre purement intellectuel. Et je ferai un petit parallèle, si vous me le permettez, avec ce que vous évoquez dans la partie consacrée aux mathématiques et où vous présentez un concept très important en matière de mathématiques qui laisse entendre que la vérité est plus importante et plus vaste que la démontrabilité.
Qu'en est-il en matière d'art alors ?
Alors oui, l'art... Évidemment que l'art est important. Je sais que mon maître était Bernard d'Espagna. Il était le fils de Georges d'Espagna. Et Georges d'Espagna était un peintre impressionniste. Donc jeune, il a pu encore voir chez lui des gens comme Renoir, etc. qui était encore vivant quand il est né. Et donc, il a pu, donc, par son père, connaître des grands artistes. Et moi-même, je ne vous l'ai pas dit, mais les deux parents de ma mère étaient des élèves d'Antoine Bourdelle. Le musée Bourdelle à Paris, quand vous le visitez, une pièce était l'atelier de ma grand-mère. Et d'ailleurs, Bourdelle a fait une aquarelle pour célébrer la naissance de ma mère. La première naissance de deux élèves d'Antoine Bourdelle. Donc, de ce côté-là, mon père était aussi un grand amateur, spécialiste de la danse classique et de la peinture impressionniste. Donc, que ce soit par mes parents ou par Bernard d'Espagna, j'ai été évidemment baigné dans ses considérations sur l'art. Et évidemment, d'Espagna disait lui-même, l'art, à partir du moment où la science nous démontre qu'elle ne peut pas dévoiler la totalité du réel, à partir du moment où la science démontre elle-même ses propres limites, d'autres voies, comme la religion, la mystique, l'art, etc., peuvent être des voies d'accès au réel. C'est une évidence. Ensuite, l'art a parfois précédé, par exemple, les découvertes ou a accompagné les découvertes scientifiques. Quand Kandinsky fait son premier tableau non figuratif en 1917, ça fait déjà quelque temps que les scientifiques ne savent plus représenter le réel à cause des débuts de la physique quantique, voyez-vous. Donc il y a des choses tout à fait intéressantes. J'ai un ami, Morvan Salès, qui a fait dans la revue Inexploré de l'INRES un magnifique article où il fait un lien entre le cubisme et la physique quantique. Par exemple, dans une toile cubique de Picasso, vous voyez à la fois la face et le profil de la personne, ce qui est impossible en théorie, sauf qu'en physique quantique, vous êtes à la fois onde et corpuscule, ce qui est impossible également, vous voyez. Donc il y a plein de parallèles. Maintenant, au risque de vous décevoir, je suis extrêmement mauvais moi-même. Je vais aimer l'art, mais je suis extrêmement mauvais pour toutes les formes d'art, bien que j'ai donc deux grands-parents sculpteurs. Et donc, je suis mauvais pour comprendre la musique, j'ai pas d'oreille, bref, je suis pas du tout doué pour ces questions-là. Donc, par contre, ce que je peux voir de par l'héritage que j'ai eu, et je veux mentionner ici donc ce que disait Bernard d'Espagna, et c'est très intéressant, me semble-t-il, et très provocant sur l'art moderne. Mais voilà, l'art moderne est basé sur le concept de nouveau. Si c'est nouveau, c'est de l'art. En gros, vous ne pouvez pas exposer une cuvette de WC avec une signature parce que Marcel Duchamp l'a fait avant vous. Eh ouais, donc ce n'est pas plus de l'art, ce serait une pâle copie. Par contre, je dis n'importe quoi, si vous mettez une cuvette de WC renversée sur un frigidaire, vous pouvez l'exposer. Parce qu'on n'a jamais exposé une cuvette de WC renversée sur un frigidaire. Donc Bernard d'Espagne, pour déterminer si quelque chose est de l'art aujourd'hui, un catalogue raisonné de toutes les expositions d'art dans le monde est nécessaire et suffisant. Et c'est une critique très forte. Et d'Espagne disait cette phrase extraordinaire, un jour, il ne sera plus nouveau d'être nouveau. C'est-à-dire le critère que la nouveauté est le seul critère, ce critère-là porte en germe sa propre destruction. C'est une idée très forte, je trouve. Et donc, il ne sera plus nouveau que le nouveau soit en quelque sorte la valeur suprême. Et ce jour-là, on pourra peut-être redécouvrir un art véritable.
Merci infiniment pour ce temps que vous nous avez consacré, Monsieur Stone. Et donc, je rappelle la sortie de votre ouvrage, Explorateur de l'invisible, une plongée. Je vous laisse terminer le titre parce qu'il est très joli.
Monsieur. Explorateur de l'invisible, une plongée au cœur des grands mystères de l'univers et de nous-mêmes.
Merci infiniment. Très bonne soirée.
Merci. Et j'avais pas compris.